Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Aujourd'hui, on est dans un moment un peu plus difficile en diaspora. Il y a eu, vous savez ce qui s'est passé, un crime horrible qui a eu lieu à Toulouse, un crime antisémite. Donc, au-delà de cet épisode épouvantable, il y a eu une recrudescence d'actes, d'actions antisémites. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de juifs qui se posent des questions par rapport au fait de conserver des attaches en France ou bien d'aller émigrer en Israël et de faire ce qu'on appelle leur alia. Voilà, ils sont peu nombreux, mais ils existent. Il y a un certain nombre de juifs qui ont décidé de faire de juifs toulousains qui ont décidé de faire leur alia. Pas toujours pour les raisons que je viens d'invoquer, pas toujours pour des raisons de crainte ou de difficulté à s'installer. Certains oui, et d'autres parce qu'ils ont envie de rejoindre la terre de leurs ancêtres. C'est vrai que c'est une très belle histoire, l'histoire d'Israël. Retrouver une terre comme ça, cette espèce de terre promise dont on parle depuis 6000 ans dans nos traditions, et pouvoir s'y installer, je reconnais que c'est un très beau rêve à réaliser. Moi-même, pour l'instant, je ne suis pas tenté, je me sens très français et très bien ici, mais je comprends très bien qu'on aille le faire. Voilà. Donc, aujourd'hui, la situation est un petit peu ambiguë. Je pense que ces problèmes d'antisémitisme qui ont toujours existé plus ou moins sont un petit peu en recrudescence, il ne faut pas se voiler la face. J'espère que ça va s'arranger, j'espère qu'on ne va pas continuer longtemps à avoir des véhicules de police devant les synagogues, devant les écoles juives, et que les choses vont rentrer dans l'ordre. Oui, j'espère que ce n'est pas un vœu pieux et qu'on le verra, on le verra.
Mars 2012, la semaine meurtrière de Mohamed Merah s'achevait par la tuerie de l'école Ozara Torah. Ortora, aujourd'hui. 10 ans après, pour rendre hommage aux victimes des attentats de Toulouse et de Montauban, Abel Chenouf, Mohamed Legouad, Myriam Monsonego, Ariette Sandler, Gabriel Sandler, Jonathan Sandler, Imab Ibzaten, une grande commémoration était organisée à Toulouse ce dimanche 20 mars, en présence notamment du chef de l'État Emmanuel Macron et d'Isaac Herzog, son homologue israélien. Aujourd'hui, à la lumière des paroles et des analyses du père Arnaud Franck, délégué diocésain aux relations religieuses avec le judaïsme, de paroles entrecoupées de sons d'archives réalisés au cours de reportages précédents, nous venons d'entendre Pierre Lasserie, qui en 2017 nous faisait découvrir l'histoire des communautés juives à Toulouse. Entre peur et tristesse, donc, nous essaierons d'ouvrir un chemin d'espoir. Là où depuis près de 2 décennies en France, nous voyons trop souvent se former une convergence des haines. Père Arnaud.
Oui, parce qu'au fond, il y a derrière chaque haine le rejet de l'autre. Le rejet de l'autre parce qu'il n'a pas ce que moi j'ai. C'est le racisme hein, qui considère que moi j'ai quelque chose que les autres n'ont pas et donc du coup je les rejette. Et l'antisémitisme, comme le dit Delphine Horviller dans son dernier livre « Réflexion sur la question de l'antisémitisme », je crois, si je ne me trompe pas, elle dit bien que l'antisémitisme c'est la haine du juif considérant que lui, il a quelque chose que moi je n'ai pas. Et il a l'élection, il a le succès, il a l'argent, on entend hein, tous les poncifs derrière. Donc il y a vraiment le rejet de l'autre. C'est, oui, il y a une convergence des haines parce que ça pose vraiment la question de l'altérité.
Vous dites antisémitisme, à ne pas confondre, à ne pas faire l'amalgame aussi, antisémitisme, antisionisme.
Oui, il y a 3 mots. Qui sont reliés quand même les uns aux autres, mais qui sont distincts, c'est l'antisémitisme, l'antijudaïsme et l'antisionisme. Alors, l'antisémitisme, c'est le rejet des juifs comme peuple, comme ethnie, considérant peut-être qu'ils seraient une race, et donc du coup, bah, voilà, on entend aussi hein, derrière tout ce qu'on peut mettre derrière le mot « race ». Et l'antijudaïsme, c'est le rejet d'Israël dans la religion qu'il incarne. Et là, pour le coup, les chrétiens, malheureusement, dans l'histoire, ont été des artisans de l'anti-judaïsme. Et puis aujourd'hui, il y a l'anti-sionisme, qui est le rejet de concevoir un État politique d'Israël. Et aujourd'hui, en Europe comme en France, il y a une recrudescence de l'anti-sionisme derrière lequel se cache d'une certaine manière un antisémitisme.
Et à Toulouse, aujourd'hui, enfin depuis quelques années, est-ce que la réalité sociale et politique favorise ces convergences de haine ?
D'une certaine manière, parce qu'il y a la crainte de l'autre. On parlait tout à l'heure du rejet de l'autre, de la question de l'altérité. De multiples raisons ont fait qu'il y a des murs qui se construisent, parfois de manière visible, mais souvent de manière invisible, entre nous. Et donc, il y a la crainte de l'autre. Et quand il y a la crainte de l'autre, ben, ça touche notre propre identité. Et donc, du coup, par crainte, on va peut-être davantage se replier sur notre identité. Et c'est vraiment une question qui se pose en France, la question identité, une vraie question.
Bien sûr, j'appartiens à une communauté, mais j'ai pas du tout.
Pierre Lasserie.
Cet instinct, j'ai pas un instinct grégaire particulier par rapport à ça. Donc, c'est vrai que je suis très content, même fier d'appartenir au peuple juif. C'est toujours difficile de parler du peuple juif. C'est pas une race, c'est un choix. C'est pas non plus seulement une naissance. C'est très particulier d'être juif. On dit qu'on ne choisit pas d'être juif, mais je crois que c'est pas tout à fait vrai. On choisit d'être juif. On a beau être né dans une famille juive, on passe quand même par des hésitations, des doutes, des réflexions, des examens de conscience. Donc, on ne peut pas se contenter de naître juif.
C'est une démarche personnelle.
C'est forcément une démarche personnelle. C'est forcément une démarche personnelle. Il y a ici quelques personnes qui sont en processus de conversion, qui viennent tous les matins ou tous les shabbats, qui ne sont pas juifs et qui ont envie de le devenir. Vous savez que la religion juive n'est pas prosélyte, donc c'est compliqué de devenir juif, c'est compliqué de se convertir. Donc c'est finalement une chance d'être juif, d'être né juif. Mais pour autant, ça demande une démarche mentale, intellectuelle, spirituelle. Et donc je pense que c'est un choix qu'il faut faire. Alors après, la communauté juive, oui, je suis content d'en faire partie, sans plus. Il n'y a pas de communautarisme, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Alors, vous connaissez bien à Toulouse cette communauté, ou plutôt ces communautés,
oui,
juives, parce qu'il y a peut-être plusieurs sensibilités. Oui. Vous les connaissez bien, puisque vous êtes de la déléguée diocésaine aux relations avec le monde, avec le judaïsme. Ces communautés, qu'est-ce que vous percevez d'elles aujourd'hui? De la peur, de la colère, de l'angoisse?
Oui, il y a beaucoup d'angoisse et de peur.
Père Arnaud.
Il reste bien évidemment sous le choc des événements de 2012 et il se pose à juste titre, est-ce qu'on peut vivre comme juif en France et on peut comprendre que certains sont tentés de repartir en Israël. Alors non seulement cela il faut le permettre, mais ça nous pose quand même la question... pourquoi aujourd'hui en 2022 des juifs ne pourraient pas vivre librement en France? Je ne pense pas qu'il y ait de la colère. Il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et beaucoup de questions aussi face à la montée de l'islamisme, et je dis bien de l'islamisme, hein, pas de l'islam. Chaque terme est important, hein. Donc c'était aussi important aussi, peut-être on en reparlera, mais que les évêques de France l'année dernière écrivent un message, une déclaration solennelle pour lutter contre tous ces anti-judaïsmes, antisémitisme, et qu'ils puissent aussi dire que le dialogue avec les juifs est la pierre de touche de toute fraternité universelle. Et ça, c'était important de dire à la fois il faut lutter contre la haine du juif sous toutes ses formes, et même d'aller plus loin, de dire que le dialogue avec les juifs peut nous permettre de vivre en frère avec tous. Ça, on y reviendra peut-être, mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de craintes, et donc aussi à nous de manifester une présence gratuite, même, j'allais dire, avant tout désir de manifester une fraternité. Voilà, dans le grand respect de nos différences, mais de manifester une présence à leur côté.
Une présence d'être humain.
Une présence d'être humain. Une présence d'être humain, une présence de croyants aussi, parce que c'est important, je crois que c'est nécessaire de manifester ce lien-là entre les croyants aujourd'hui. Et puis ensuite, comme catholique, comme chrétien, revisiter ce lien spirituel quand même qui nous unit au judaïsme.
C'est Jean-Paul Dieu qui nous disait que les juifs étaient nos aînés dans la foi.
Oui, nos frères aînés dans la foi. Et le pape Benoît XVI, à mon avis, est allé même plus loin en disant qu'ils étaient nos pères dans la foi. J'aime bien rappeler que le grand rabbin de France, Raïm Korsia, qui est un homme très ouvert et vraiment qui est un homme de dialogue et de fraternité, nous rappelle souvent à nous les chrétiens que dans la Bible, les frères aînés n'ont pas la meilleure place. Et qu'en disant les pères dans la foi, ça nous ramène au Premier Testament, ce qu'on appelle souvent l'Ancien Testament, mais à tous ces pères, à ceux qui nous transmettent la foi.
Signe de la présence à l'autre, démarche interconvictionnelle organisée depuis quelques années à Toulouse par un collectif d'associations toulousaines de convictions diverses, religieuses ou laïques. En 2017, nous suivions la marche pour construire la paix, osons la rencontre. Marche reliant des lieux symboliques, aussi bien religieux que laïques.
Oui, c'est vrai, c'est un bel accueil, hein, Denis, aujourd'hui.
Impressionnant. Alors, ce rabbin, il est extra. Ensuite, on se dit, il va parler 5 minutes. Alors, moi, j'étais au fond avec les scouts et puis des petits-enfants et tout. Ils en avaient un peu assez, mais quand le rabbin a sonné le chauffard, tout le monde s'est réveillé, c'était le but. Non, c'est intéressant.
Alors voilà, là, nous arrivons, nous allons entrer dans la synagogue du lycée Horta.
Personnellement, j'y attache beaucoup d'importance à tout ce qui est fraternité.
Rabbin Youssef Matussov.
J'ai été partie prenante dans la charte de la fraternité qui a été signée à la préfecture. Toutes les actions qui se font autour de cette fraternité, j'y participe, que ce soit à la préfecture, à la mairie et de toutes les associations. C'est d'ailleurs comme ça que ces associations me connaissent aussi, parce que je pense qu'effectivement, pour revenir à des dérives, et ce qui est encore plus aujourd'hui, on attribue à l'islam, mais ce n'est pas la religion de l'islam qui est en cause, c'est les dérives de l'ignorance à l'intérieur de l'islam. Et le fait de connaître, effectivement, j'admets pas le mot l'autre, j'admets pas le mot tolérance, mais la vraie connaissance mène à une fraternité et ne peut que faire qu'il n'y ait pas d'antisémitisme, qu'il n'y ait pas des actes violents et qu'il y ait au contraire un respect mutuel et fraternel.
Dans un papier que vous avez fait paraître sur le site du diocèse, vous nous rappelez que nous sommes aussi, alors beaucoup plus récemment, hein, beaucoup moins loin dans le temps, que nous sommes les héritiers de Mgr Saliège.
Oui, ça, lorsque j'ai reçu cette mission de Mgr Le Gall, très vite, parce que aussi je suis toulousain de naissance, mais aussi de cœur, j'ai senti cet héritage de Mgr Saliège avec cette fameuse lettre qui est là sous nos yeux et dont nous allons fêter les 80 ans cette année. Donc étrange coïncidence quand même, hein. À la fois on commémore les attentats de 2012 et puis la même année aussi les 80 ans de la rafle du Veldiv, mais aussi cette lettre qui a marqué l'histoire et qui est d'une actualité impressionnante, puisque elle ne porte pas sur la question juive, elle porte sur la personne humaine et elle a des termes saisissants, où Mgr Saliège dit que les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes, ils sont nos frères, et cette petite finale qui nous ouvre un avenir, ils sont nos frères comme tant d'autres. Voilà. Et donc je crois vraiment, et moi je m'y exercerai, que nous les Toulousains, nous sommes héritiers de ce message dont la teneur est encore très actuelle.
C'est une petite synagogue, comme vous avez vu. Et c'est une synagogue qui est toujours en fonction depuis donc il y a plus de 200 ans.
C'est le cœur de la communauté juive aujourd'hui à Toulouse, en ce début de 21e siècle ?
Oui, tout à fait. Ça a été longtemps le cœur de la communauté juive de Toulouse. Alors, ça l'est encore pour certaines manifestations un peu historiques, comme par exemple les déportés ou le jour des anciens combattants. Les réceptions importantes ont lieu ici, les commémorations importantes ont lieu ici. Il y a eu depuis une synagogue plus importante qui a été construite, c'est celle de la maison communautaire, de l'espace du judaïsme, qui a plus de place, qui est toute neuve, qui est plus grande. Mais la synagogue historique des Juifs de Toulouse, c'est celle-ci, c'est celle de la rue Palapra. C'est une synagogue à laquelle beaucoup d'anciens sont attachés, et je dirais même des jeunes aussi, qui se sont pris d'affection pour ce lieu qui a une histoire, qui a un passé. Vous avez vu, les murs sont remplis de plaques au sens propre. Il n'y a plus tellement de place. Si on veut en rajouter une, c'est difficile. Il y a beaucoup de plaques de souvenirs, d'hommages. La plus ancienne est un hommage à ceux qui sont tombés à la guerre de 14. Donc, c'est des plaques très anciennes. Et les plus récentes, c'est celle, par exemple, qui a été faite pour le cardinal Saliège. On a une plaque ici d'hommage pour un cardinal, grâce à sa lettre pastorale et au courage dont il a fait preuve et à l'efficacité dont il a fait preuve pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Là aussi, il y a une convergence. Alors là, ce n'est pas une convergence de la haine, mais c'est une convergence, comme vous venez de le dire, qui nous ouvre vers un avenir.
Oui, et ce qui est saisissant dans le message de Mgr Saliège, c'est qu'il a laissé parler d'abord ses entrailles humaines. Il dit qu'il y a une morale chrétienne, mais qu'il y a surtout une morale humaine qui impose des devoirs, qui reconnaît des droits. C'est d'abord l'humanité qui parle. Et ensuite, bien évidemment, de reconnaître les Juifs comme nos frères dans la foi, mais d'abord dans l'humanité. Et à nous aussi, chrétiens, de mettre en lumière tout... J'aime beaucoup cette expression du philosophe Paul Ricoeur, ces irruptions de bonté chez les êtres humains. Et il rappelait que si les religions avaient un sens, c'était libérer le fond de bonté chez les êtres humains. Alors à nous, les chrétiens, de repérer lorsqu'autour de nous, il y a des personnes qui ne sont pas croyantes, ces irruptions de bonté, il y a cette convergence du bien dans lequel on peut y reconnaître la présence de Dieu.
Religion, c'est relié aussi.
Oui, c'est relié et donc nous sommes reliés dans... Je crois qu'on est vraiment reliés dans la bonté. Pour moi, la mission que j'ai reçue de l'Église, c'est évidemment de manifester la fraternité auprès des communautés juives, donc la fraternité catholique auprès des communautés juives, mais je ressens aussi une mission aussi d'être dans les communautés catholiques en leur rappelant les racines juives. Et ça, je crois, pour moi, c'est quand même une des pistes intéressantes de revisiter cette réalité de notre foi. J'aime beaucoup ce que disait le père Jean-Miguel Garrigue, un dominicain qui a écrit un très beau livre sur les liens entre la religion juive et notre religion. Il dit que Jésus n'est pas le fondateur du christianisme. Que le Christ n'est pas le fondateur, enfin que Jésus n'est pas le fondateur du christianisme. Parce que le christianisme, c'est la traduction grecque du mot Messie. Et donc nous, les chrétiens, nous reconnaissons que Jésus est le Messie. Donc nous sommes profondément liés au judaïsme. L'Eucharistie a ses racines dans la Pâque juive. Donc il y a cette nécessité pour la foi, sur le plan spirituel, je parle là d'un plan spirituel, de vraiment nous rendre compte que on a un lien particulier avec les Juifs. Et le Concile Vatican II a été très clair là-dessus. Et donc, comme chrétien, ce n'est pas une option. Ça, je le dis souvent aussi par rapport à l'œcuménisme, mais on peut le dire par rapport au judaïsme, mais aussi dans le dialogue avec les autres religions. Ce n'est pas une option, le dialogue. C'est vraiment au cœur même de notre foi. Jésus lui-même est dialogue dans l'Évangile. Et donc, on a cette responsabilité spirituelle, mais même, j'allais dire, citoyenne.
Le 16 mars 2012, quelques jours avant la tuerie perpétrée à l'école Ozar HaTorah, Mohamed Merah assassinait deux militaires français, Abel Chenouf et Mohamed Legouad. Le troisième, Loïc Liber, restera tétraplégique à vie. Présence du Christ au cœur des forces armées, le père Vénard assistait dans leurs ultimes moments les deux militaires du 17e RGP.
Avec moi, et plus encore avec Mohamed et avec Abel, il y avait deux personnes qui étaient là, et c'était Jésus souffrant, Jésus dans sa passion, et Marie l'accompagnant. Ils étaient là tous les deux, la mère et le fils, souffrant, et vous voyez ce calme, j'ai découvert, mais après coup, parce que sur le moment je l'ai simplement vécu, mais après coup j'ai découvert qu'il ne venait pas de moi. Peut-être je m'étais un peu préparé, parce qu'on n'est pas aumônier militaire par hasard, parce que voilà, j'ai le bruit des armes, il y a des choses auxquelles... Donc je ne nie pas, il y a une dimension humaine de préparation. Mais dans la rencontre spirituelle, dans l'accompagnement de ces deux gars, enfin de ces trois, de notre blessé et de nos deux morts, vraiment, il y avait deux personnes qui étaient là. Bon, il y avait, je dirais, cette prière liturgique, ce qu'on appelle l'absolution sous condition, que l'Église demande aux prêtres de donner à des mourants, dans des moments où... Donc, ça, ce sont des paroles très liturgiques, très, très, très... Bon, ça fait partie de la préparation, voilà. Et puis, la prière de fond, c'était des « Je vous salue, Marie ». C'était, en regardant et en tenant leurs mains, c'était de dire « Je te confie, puisque tu es en train de partir, que de toute évidence, malheureusement, voilà, tu vas passer de l'autre côté, et ben, je te confie à ceux que j'aime le plus, c'est-à-dire à Jésus et à Marie ».
Nous nous souvenons peut-être de ce moment où, ce 19 mars 2012, nous avons appris la tuerie de l'école Ozar HaTorah, du lieu où nous étions. Le père Arnaud se souvient.
En 2012, j'étais au séminaire. Et je m'en rappelle très bien du choc terrible que ça a produit. J'ai des très proches qui sont juifs et des très proches aussi dans mon entourage musulman. Et je les ai appelés simultanément. J'ai voulu... Les appeler pour manifester ma proximité, mon affection pour ses proches. Et ces événements provoquent en nous l'émoi, l'effroi. Et je trouve qu'il nous... Dans le mot provocation, il y a le mot vocation. C'est-à-dire qu'il y a un appel aussi qui a dégagé. Et bien souvent, dans les moments les plus difficiles de nos vies personnelles ou collectives, il y a des questions qui surgissent. Comme dans le livre de Job, il y a des questions qui surgissent. Et je me souviens que je me suis posé la question des religions dans la société, parce que c'était clairement une volonté quand même d'abattre des juifs... est-ce que la religion est un facteur de haine? Est-ce que c'est pas plutôt quand même facteur de paix? Oui, je me souviens du silence quand même, de l'effroi, et puis après dans un second temps de questionnement, et qui aussi suscitait peut-être l'engagement de dire peut-être que nous devons nous engager davantage dans le dialogue. Et alors c'est vrai que ça m'a touché de me rendre compte qu'en 2012, aussi par rapport à un lien que j'avais avec le monde juif, le supérieur du séminaire m'avait envoyé avec un des pères du séminaire à la synagogue qui se trouve juste à côté de la radio et du séminaire pendant l'office qui a suivi le jour de l'attentat, et puis 10 ans après de me retrouver pas à côté d'un père du séminaire mais à côté de l'archevêque, et de toujours continuer à maintenir et à prendre soin, des liens qui nous unissent, et de ne jamais croire que la paix est toujours acquise. Que ça aussi, j'ai découvert cela, que la paix n'est jamais acquise et qu'elle est à cultiver. Oui, oui, elle est un don de Dieu, mais elle est cette fameuse semence. Et donc, à nous de l'accueillir, de la plonger dans la terre de nos vies, mais aussi de l'arroser, d'y prendre soin. Ne croyons pas que la paix et que la fraternité nous soit acquise. Non, c'est très fragile. Et même plus, c'est une semence. C'est une semence qu'il nous faut cultiver. Elle peut mourir. Elle peut se dessécher. Et Toulouse, comme disait Mgr Le Gall lors de son départ, Toulouse est une ville vivante et violente. Elle a connu la violence de ces attentats de 2012. Et en même temps, elle est porteuse aussi du message du cardinal Saliège. Voilà, ce qui nous maintient bien dans une tension permanente, en tout cas dans une vigilance, dans une attention.
Des paroles d'espérance que nous avons également entendues ce dimanche 20 mars à la Halle aux Grains. Nous avons tenu, nous tenons et nous tiendrons, a notamment rappelé le président Emmanuel Macron. La journée d'hier, écrivait Jean-Claude Souléry le lendemain dans la Dépêche du Midi, la journée donc dépassait l'émotion, les douleurs et les souvenirs des morts. Elle signifiait d'abord une farouche volonté de vivre et d'aimer.